Bonjour, nous sommes les Dignes Ding Dong et nous sommes heureux de vous retrouver sur les ondes de Fréquence Mistral Digne pour une nouvelle émission sur le thème de la démocratie dans une première partie, puis sur les différents types de gouvernance dans le monde.
Tout d'abord, nous allons définir ce qu'est la démocratie selon le dictionnaire Larousse. La démocratie est un système politique, c'est une forme de gouvernement dans lequel la souveraineté émane du peuple. La démocratie politique est née dans la Grèce antique, pourtant ce n'est pas avant le XVIIIe siècle que fut formulée la théorie de la séparation des pouvoirs, définie par Montesquieu, et mise en place le suffrage universel qui en sont deux des fondements. Nous venons d'évoquer Montesquieu. Ce que l'on peut en dire, c'est que Charles-Louis de Secondat, baron de la Brède et de Montesquieu, était un magistrat, penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le 18 janvier 1689 à la Brède et mort le 10 février 1755 à Paris. L'Esprit des lois est l'œuvre la plus célèbre de Montesquieu. Il est connu pour son ouvrage De l'Esprit des lois, mais aussi Les lettres persanes. L'Esprit des lois inspirera les auteurs de la Constitution des États-Unis de 1787 et ceux de la Constitution française de 1791.
Quelle était la célèbre citation du baron de Montesquieu ?
Dans l'état de nature, tous les hommes naissent égaux, mais ils ne peuvent conserver cette égalité, la société la leur fait perdre et ils ne la recouvrent que par la protection de la loi.
Pour quelle théorie Montesquieu est-il célèbre ?
Montesquieu est célèbre pour avoir formulé la théorie de la séparation des pouvoirs. La théorie classique de la séparation des pouvoirs distingue trois fonctions principales. La fonction d'édiction des règles générales constitue la fonction législative, exercée par des assemblées représentatives. La fonction d'exécution de ces règles relève de la fonction exécutive, détenue par le chef de l'État. La fonction de règlement des litiges constitue la fonction juridictionnelle. Elle est représentée par des membres du gouvernement responsables des juridictions. Et l'autorité judiciaire est détenue par les tribunaux et les juges. Chacune d'entre elles sont exercées par des organes distincts. De cette manière, aucun pouvoir ne peut contrôler les deux autres. La séparation des pouvoirs constitue un obstacle au despotisme et à la tentation du pouvoir personnel, puisqu'aucune personne ne peut concentrer entre ses mains la totalité des attributs de la souveraineté. Source: Franck Baron, conseiller de l'Assemblée nationale, publication du 7 juillet 2018.
Mais quels sont les piliers de la démocratie ?
La démocratie est un régime politique. La démocratie est un régime politique qui repose sur 5 piliers. Le respect des libertés fondamentales, la séparation des pouvoirs, la tenue d'élections libres régulières, la souveraineté du peuple et le pluralisme politique. Dans une démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Mais on ne peut pas demander l'avis de tout le monde, tous les jours, sur tous les sujets. La Constitution prévoit donc comment choisir des personnes qui dirigent le pays au nom des citoyens. C'est comme la règle du jeu de l'État. C'est la Constitution qui explique comment il doit fonctionner, ce qui est autorisé, ce qui est interdit et ce que l'État doit défendre. Le président de la République et les parlementaires, députés et sénateurs, exercent tous leur pouvoir au nom du peuple, qui les unit au suffrage universel direct ou indirect. Le suffrage direct est un vote dans lequel les élus sont désignés par l'ensemble du corps électoral, les électeurs et les électrices. Par exemple, les députés qui siègent à l'Assemblée nationale et votent les lois sont élus directement par les citoyens. On parle alors de suffrage universel direct. Le suffrage indirect, quant à lui, est un suffrage dans lequel les élus sont désignés par un corps intermédiaire, nommé collège électoral, dont les membres ont eux-mêmes été élus. Source: tout Pictionnaire. Par exemple, les Français et les Françaises ne choisissent pas directement les sénateurs. Ce sont des représentants locaux, comme des personnes élues dans les départements, les régions, les villes, qui votent pour donner à certains d'entre eux le rôle de sénateur ou sénatrice. Les élus représentent donc les citoyens et les citoyennes du pays pendant une période définie qu'on appelle un mandat. Les Français votent aussi au suffrage universel direct ou indirect pour élire des représentants locaux comme les maires, élections municipales, les conseillers départementaux ou régionaux, élections départementales ou régionales, ou les députés au Parlement européen, élections européennes. Source, découvrons notre constitution.fr. En 1789, la Révolution française provoque le renversement du système politique en place, c'est-à-dire de la monarchie absolue. Elle aboutit à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dont l'article 16 consacre le principe de la séparation des pouvoirs.
Faisons une pause avec un peu de musique. On reste dans le thème, avec la Marseillaise de Grim Allwright.
Pour tous les enfants de la terre, chantant amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix, rassemblant nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière.
Bon, je vais compter 1, 2, 3 et puis on y va. 1, 2, 3.
Pour tous les enfants de la terre, chantons amour et liberté, contre toutes les haines et les guerres, l'étendard d'espoir élevé, l'étendard de justice et de paix, rassemblant nos forces, notre courage, pour vaincre la misère et la peur, que règne au fond de nos cœurs l'amitié, la joie et le partage, la flamme qui nous éclaire traverse les frontières. Partons, partons, amis solidaires, marchons vers la lumière.
Eh bien, merci beaucoup.
La France est une démocratie représentative. Mais qu'est-ce que la démocratie représentative ? Source, toupie.org.
La France est une démocratie représentative, c'est-à-dire que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. En effet, le peuple peut aussi donner son avis directement sur un texte de loi grâce à un vote qu'on appelle référendum.
Mais qu'est-ce qu'un référendum ?
Le référendum est un procédé de démocratie semi-direct permettant aux citoyens de manifester eux-mêmes un choix politique au travers d'un vote. Source, dictionnaire Larousse. Le référendum peut être organisé de deux façons, soit par le président de la République, suite à une proposition de son gouvernement ou du Parlement, soit, sous certaines conditions, par le président de la République sur l'initiative de 20% des membres du Parlement, c'est-à-dire les députés et les sénateurs, et de 10% des électeurs, c'est-à-dire les personnes qui ont le droit de voter pour le réclamer. Si le peuple vote oui à un projet de loi, le président de la République doit le promulguer dans les 2 semaines. C'est le Conseil constitutionnel qui s'assure que l'organisation d'un référendum respecte les règles imposées par la Constitution française. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres, 3 nommés par le président de la République, 3 par le président de l'Assemblée nationale, 3 par le président du Sénat. Source viepublique.fr.
Le saviez-vous ?
Depuis le début de la Ve République, il y a eu 10 référendums. Par exemple, un référendum organisé en 2000 par le président de la République, Jacques Chirac, qui a réduit le mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Le dernier référendum a eu lieu en 2005. Les Français ont voté non à l'adoption d'un traité européen.
Quel est le rôle du président de la République ?
Le président de la République française est le chef de l'État. Il représente la France. Quand le président parle à l'Union européenne ou dans d'autres pays, il parle au nom de la France. Le président de la République s'assure que la politique française respecte les règles dictées dans la Constitution. Il est aussi le chef des armées et peut décider, en cas d'attaque du pays, de l'utilisation de l'arme atomique. C'est le chef du pouvoir exécutif. Il choisit et nomme le Premier ministre. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire décider qu'une nouvelle Assemblée doit être élue.
Un peu d'histoire. En France, il n'y a eu encore jamais de présidente de la République. Pendant la Ve République, le plus jeune président a été élu à 39 ans. C'est Emmanuel Macron, qui est le 8e président de la Ve République.
Nous vous proposons une pause musicale avec une chanson du groupe HK, intitulée « Démocratie ».
Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles. Pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits. Parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie. On se bat pour la démocratie. Et moi je fais partie de ce peuple en colère, à qui on a promis à peu près tout et son contraire. Je ne peux plus les croire, ils nous ont tant abusés. Ils ne voulaient pas nous voir unis mais toujours divisés. Je suis de ceux qui s'opposent, de ceux qui dénoncent. l'essence de ceux qui proposent le chemin de la résistance. Démocratie en ton nom, nous relevons la tête. Nous voilà des millions comme un souffle que rien n'arrête. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie. Notre maison, démocratie. Notre horizon, démocratie. Notre raison, démocratie. On se bat pour la démocratie.
Voyons à présent quel est le rôle du gouvernement.
Le gouvernement est composé du Premier ministre qui dirige une équipe de ministres répartis par spécialité comme l'environnement, la santé, l'éducation, etc. Le Premier ministre nomme les membres de son gouvernement. Les ministres ne sont donc pas élus par le peuple. Le gouvernement donne une direction à toutes les politiques du pays. Il fait appliquer les lois et peut proposer de nouvelles au Parlement. Ces projets de loi, déposés au nom du gouvernement par le Premier ministre, sont proposés au vote parlementaire, députés et sénateurs. En droit constitutionnel, on dit que le gouvernement est responsable devant le Parlement. Ce dernier pose des questions au gouvernement, suit l'application des lois et peut auditionner les ministres. Le gouvernement peut aussi demander un vote de confiance du Parlement au moment de sa nomination avec le risque d'être renversé. La Constitution donne enfin la possibilité au gouvernement de faire adopter un texte sans le vote de l'Assemblée nationale grâce à l'article 49.3. Mais si les députés décident de voter une motion de censure pour rejeter le texte, le gouvernement est renversé. Si aucune motion de censure n'est votée, le texte est adopté.
Et l'autorité judiciaire, alors, qu'est-ce que c'est ?
Le concept d'autorité judiciaire est inscrit dans la Constitution française. Il figure aussi à l'article 5 de la Convention. Ces deux sources consacrent le rôle de cette autorité dans la garantie des libertés individuelles. Source conseilconstitutionnel.fr. L'autorité judiciaire désigne les tribunaux et les magistrats, c'est-à-dire les juges et procureurs, qui vérifient que les lois sont appliquées et qui sanctionnent ceux qui ne les respectent pas. Les juges exercent leur autorité au nom du peuple français. Ils sont indépendants du pouvoir politique, ce qui signifie qu'ils peuvent juger du respect des lois sans que le président de la République, un ministre ou un député ne puisse intervenir dans leurs décisions.
Voyons à présent d'autres formes de l'exercice du pouvoir dans le monde. Source, majorprepa.com. Les pays les plus démocratiques dans le monde.
En 2025, seuls 71 pays sont considérés comme des démocraties, ce qui représente environ 6,6% de la population mondiale. Source, le grand continent, eu.eufr.fr. L'indice de démocratie dans le monde, publié chaque année par The Economist Intelligence Unit, classe les pays selon quatre types de régimes. Démocratie à part entière, démocratie imparfaite, régime hybride et régime autoritaire. Ce classement repose sur 60 critères répartis en 5 catégories, comme processus électoral, pluralisme, liberté civile, fonctionnement du gouvernement et participation politique. En 2024, le nombre de l'indice de démocratie est tombé à 4,53 contre 5,23 en 2023. Malgré les 71 pays classés comme démocratiques, seulement 6,6% des humains vivent dans un régime considéré comme démocratique. Ce chiffre était de 12,5 en 2014, ce qui montre une régression significative. La guerre est évidemment à la fois une cause et une conséquence des dysfonctionnements démocratiques, voire de l'absence de démocratie tout court. Crimes de guerre, désorganisation des institutions, migration, exode, émergence de figures autoritaires, etc.
Les pays les plus démocratiques répertoriés en 2024.
La Norvège, la Nouvelle-Zélande, la Suède, l'Islande, le Danemark, l'Irlande, Taïwan, l'Australie et la Suisse en 9e position.
À présent, une petite pause musicale avec Adriano Celentano. Ça, c'est pour Marguerite. Et la chanson Lasciatemi cantare.
Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. È un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra. Un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti. Con troppa America sui manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore. Con le donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Italiano vero. Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Buongiorno Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto, con la bandiera in tintoria, la 600 giù di carrozzeria. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io.
Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero. Sono un italiano vero.
Abordons maintenant la notion de régime autoritaire avec la notion de dictature. Mais qu'appelle-t-on une dictature ? Définition, source, équilibre, perspective, monde.
C'est un régime politique qui se caractérise par une forme de pouvoir arbitraire, autoritaire, entièrement soumis à la volonté de celui ou de ceux qui gouvernent. Les tribunaux, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif sont alors directement liés aux décisions du dictateur. On n'y trouve aucun contre-pouvoir, absence d'une presse libre, absence de parti d'opposition et absence de groupe de pression indépendant dans la société civile. Une dictature peut s'installer de plusieurs manières, par un coup d'État, par une révolution ou par une occupation du territoire au terme d'une guerre. À notre époque, une dictature émerge souvent dans un contexte de crise, là où les institutions sont incapables ou impuissantes à résoudre les problèmes. Une dictature peut être dirigée par une junte militaire, par un individu ou par un parti. Le plus souvent, les formes se combinent. Cependant, l'usage du terme est ambigu et source de confusion dans la mesure où les dictateurs ne l'utilisent pas pour qualifier leur pouvoir. L'ambiguïté provient aussi d'un usage extensif de ce terme par les groupes qui s'opposent à un gouvernement démocratique, du fait qu'il se trouve en contradiction avec les intérêts ou principes des groupes en question. Autre paradoxe dans l'usage du terme, les communistes utilisent l'expression « dictature du prolétariat » pour désigner un pouvoir fort des classes populaires sur les anciennes classes possédantes bourgeoises.
Qu'appelle-t-on la dictature du prolétariat ? Source Wikidia.
La dictature du prolétariat est une méthode politique proposée par les marxistes pour passer du capitalisme, société dominée par la bourgeoisie, au communisme. C'est l'idée que cela devrait passer par une étape où tous les pouvoirs politiques seraient dans les mains des prolétaires, ouvriers, paysans, employés qui ne vivent que de son salaire, opposés à capitalistes bourgeois, afin qu'ils puissent refaire les règles de la politique selon le principe de l'égalité sociale. Mais qui sont donc les marxistes ? Ce sont des partisans de Karl Marx. Karl Marx est né le 5 mai 1818 à Trèves, dans le Grand-Duché du Bas-Rhin, et est mort le 14 mars 1883 à Londres. C'était un philosophe, économiste, historien et sociologue.
Quelle est la théorie de Karl Marx ?
Le concept marxiste ou la dictature du prolétariat. Les marxistes appréhendent l'économie comme une succession de modes de production. Le mode féodal a laissé place au mode de production capitaliste. Celui-ci sera remplacé par les modes de production socialistes et communistes.
Écoutons maintenant une poésie de Sylvain. Alors je vais lire la poésie de Sylvain parce que Sylvain n'est pas là. Et voilà, je le remplace en espérant qu'il ira mieux bientôt. Je prendrai la plus belle plume d'un moineau ou d'un aigle, la plume d'un oiseau enfin. Enfin le soleil, je me prendrai pour un roi. Le soleil réchauffe mon cœur, réchauffe mon âme. Ce matin, soleil, café. J'écoute la musique, alors j'écris. Alors je m'écris, alors je t'écris. Ma peine vole dans le ciel. Quand je regarde la plume, elle aussi elle vole, avec l'espoir. Dans le ciel, si ton âme vole, je t'envoie cette plume. Je te parlerai un peu. Il n'y a pas de pardon, il n'y a que la vie, cette chienne que l'on aime. Je la vois, la plus belle plume, alors je te l'envoie. Moi, qui suis en vie. Je la vois qui tressaille. Quand je pense à toi, entendre ta voix une dernière fois, alors je t'envoie cette plume. Tu vois, j'entends ta voix. Tu vois, ce soir, c'est simple, juste une plume. Et de l'encre pour signer, pour pas t'oublier. Ce soir, remords. Ce soir, j'ai tort. Torture de la plume.
Comment définir un régime politique liberticide ? Source ifsj.fr. Les gouvernements autoritaires sont dits liberticides lorsqu'ils ne garantissent pas à leurs citoyens le respect des droits fondamentaux de l'être humain. Dans ce type de régime politique, le pouvoir est généralement concentré dans les mains du chef de l'État, où les diverses assemblées sont contrôlées par lui, officiellement ou discrètement. Attention, certaines démocraties peuvent prendre un aspect totalitaire, comme la République démocratique de Chine, lorsqu'un seul individu incarne seul la volonté du peuple sans permettre l'existence d'un véritable contre-pouvoir.
Il nous semble important d'aborder à présent la notion de fascisme.
Le fascisme, mouvement politique autoritaire, nationaliste et anticommuniste, né en Italie de la crise qui a suivi la Première Guerre mondiale et mis en place par Benito Mussolini de 1922 à 1945. Par extension, tout mouvement politique s'appuyant sur un pouvoir fort, l'exaltation du sentiment nationaliste, le rejet des institutions démocratiques, la répression de l'opposition et des étrangers, et une société civile sous contrôle. Le fascisme a influencé d'autres mouvements totalitaires en Europe. Le nazisme allemand, la Falange dans l'Espagne franquiste, la garde de fer de Gaudreanu en Roumanie, le mouvement Ustachi de Pavelić en Croatie. Il inspire encore aujourd'hui divers mouvements d'extrême droite dits néofascistes. Source, le monde diplomatique.
Abordons à présent la notion d'anarchie. En effet, comment peut-on définir l'anarchie ?
Doctrine anarchiste ou anarchisme ? Source, dictionnaireacademie.fr. Du grec « a », « en », « sans », « privé de » et « arché », « principe », « chef », « commandement », « absence d'autorité », sans gouvernement. L'anarchisme est une doctrine politique apparue au XIXe siècle qui repose sur l'idée que les hommes sont naturellement bons et que la vie en société peut s'organiser spontanément sans recours à un chef. L'autorité de la religion et celle de l'État ne sont donc pas légitimes. Ni Dieu, ni maître, clament les anarchistes pour qui la liberté ne se délègue pas. La vie en société doit donc reposer sur l'associationnisme et le fédéralisme, les contrats entre individus étant toujours réversibles. On distingue originellement un anarchisme individualiste, Max Stirner, et un anarchisme socialiste, Proudhon, et un anarchisme communiste, Bakounine. Marx s'opposant avec vigueur à ces deux derniers courants parce qu'ils veulent abolir immédiatement l'État sans passer par une étape intermédiaire. Mouvement pluriel, l'anarchisme s'est ramifié tout au long du XXe siècle. Si l'image de l'anarchisme a été affectée par le recours à la violence par ses courants les plus extrêmes, pratique du terrorisme appelée propagande par le fait à la fin du XIXe siècle, elle a aussi été réévaluée comme attitude morale de non-compromission, par exemple chez Camus. L'anarchisme, par définition, difficile à systématiser, jouit aujourd'hui encore d'une grande influence dans les débats de société. Source philomag.com.
Passons maintenant la parole à Faust, qui a souhaité écrire sur ce sujet.
L'argent, les lois, les systèmes n'essuient que l'échec depuis toujours. Utopie de l'idéal, l'humanité ne l'a jamais connu. L'anarchie ou société libertaire est une société, devrait-on dire une communauté, fondée sur la démocratie directe, sans système de pouvoir tel qu'un gouvernement, une économie d'exploitation. Elle refuse l'existence du salariat, des monopoles, des cartels, du capitalisme d'État ou d'une religion d'État. On n'y trouve donc pas de classe sociale. Il existe un ordre, une loi, mais qui émane directement du peuple. Cependant, une communauté qui vivrait et s'érigerait sans l'aliénation au pouvoir nécessite la participation d'êtres plus évolués et, selon les mots d'Élisée Reclus, la plus haute expression de l'ordre. Il était militant anarchiste français, né le 15 mars 1830 et mort le 4 juillet 1905. Il est né en Gironde et il participa au journal Le Révolté. Il fut confronté à la société esclavagiste des planteurs, ce qui fit de lui un révolté par la condition des esclaves. En 1840, Pierre-Joseph Prudhomme est le premier à se qualifier d'anarchiste. En 1987, Jacques Ellul précise « Plus le pouvoir de l'État augmente, plus l'anarchie est nécessaire, seule et unique défense de l'individu. » Jacques Ellul, quant à lui, est né le 6 janvier 1912 et est décédé le 19 mai 1944. C'était un résistant libertaire français. Il rejetait tout recours à la violence. Source Wikipédia.
Il a existé des femmes anarchistes qui ont marqué leur temps.
En premier lieu, évoquons Emma Goldman. Emma Goldman est une intellectuelle et militante socialiste et anarchiste russe, puis américaine et canadienne. Née le 27 juin 1869 à Cognon et morte le 14 mai 1940 à Toronto, Canada. Connue pour son activisme politique, ses écrits et ses discours radicaux, libertaires et féministes. Elle a joué un rôle majeur dans le développement de la philosophie anarchiste en Amérique du Nord et en Europe dans la première moitié du XXe siècle. Pour certains, Emma Goldman est une femme rebelle, libertaire et libre-penseuse. Pour ses détracteurs, c'est une avocate de l'assassinat politique et de la révolution violente. Ses écrits et ses conférences touchent des domaines aussi divers que la prison, l'athéisme, la liberté d'expression, le militantisme, le mariage ou l'homosexualité. Bien qu'elle ne partage pas la revendication de la première vague du féminisme en faveur des droits de vote des femmes, elle développe une nouvelle réflexion intégrant davantage les femmes et la sexualité de la philosophie anarchiste. Dans les années 1970, après des décennies dans l'oubli, son parcours est revisité par des chercheurs féministes ou anarchistes. En 1979, ses mémoires sont traduites et publiées en français sous le titre « L'épopée d'une anarchiste, New York 1886, Moscou 1920 ». Elles sont rééditées régulièrement depuis.
Nous avons choisi de parler également d'une autre femme anarchiste nommée Voltairine de Clare.
Voltairine de Clare, née le 17 novembre 1866 à Leslie, Michigan, et morte le 20 juin 1912 à Chicago, est une militante et théoricienne anarchiste et américaine qu'Emma Goldman considérait comme la femme anarchiste la plus douée et la plus brillante que l'Amérique ait jamais produite. Elle est l'auteur de chroniques, de poèmes, d'essais politiques, surtout consacrés à l'économie, la religion, la pensée anarchiste et ses moyens d'action. Elle promet un anarchisme sans adjectif qui refuse les tendances qui divisent le mouvement libertaire et défend l'action directe comme seul moyen de révolution sociale. Son féminisme radical, bien que le mouvement n'existe pas encore à l'époque, il s'agit d'une association de a posteriori, l'amène en 1890 à dénoncer l'esclavage sexuel et le viol légal, à ses yeux, l'institution du mariage.
Voici quelques citations de Voltairine de Clare.
L'action directe ne se définit pas par la violence, mais plutôt par son autonomie par rapport aux institutions en place. Par exemple, un individu qui défend ses droits en les proclamant face au pouvoir en place pratique l'action directe. Les sources de la vie, les richesses naturelles de la terre, les outils nécessaires pour une production coopérative doivent devenir accessibles à tous. Une fraction de la population américaine produit la richesse qui permet à tous de vivre exactement de la même façon que 4 millions d'esclaves noirs entreprenait une foule de parasites qui les commandait.
Il est aussi une femme française connue pour ses idées anarchistes. Il s'agit de Louise Michel. Qui était Louise Michel ?
Louise Michel, alias Angel Rice, née le 29 mai 1830 à Vancourt-la-Côte et morte le 9 janvier 1905 à Marseille, est une institutrice, écrivaine, poète, philosophe, communarde et franc-maçonne française. En 1871, elle participe activement aux événements dans la communauté de Paris, autant en première ligne qu'en soutien. C'est un livret armé pour faire libérer sa mère. Elle est déportée en Nouvelle-Calédonie, là où elle se convertit à la pensée anarchiste. Elle revient en métropole en 1880 grâce à l'amnistie des communards et, très populaire, multiplie les manifestations et réunions en faveur des prolétaires. Elle reste surveillée par la police et est emprisonnée à plusieurs reprises, mais poursuit son militantisme politique dans toute la France, jusqu'à sa mort à l'âge de 74 ans en Marseille. Elle est l'une des représentantes les plus célèbres de la part prise par les femmes dans la Commune de Paris. Elle est aussi une figure féministe et devient de son vivant l'une des personnalités majeures de l'anarchisme, un mouvement qu'elle rejoint après la Commune et qu'elle influence en profondeur. Elle est aussi un précurseur de la question du bien-être animal, dénonçant l'exploitation des bêtes de somme, notamment en parallèle de celle des êtres humains.
Lors de son procès, elle a fait une déclaration à ses juges. La voici.
Ce que je réclame de vous, c'est le poteau de Satori où, déjà, sont tombés nos frères. Il faut me retrancher de la société. On vous dit de le faire, eh bien on a raison, puisqu'il semble que tout cœur qui bat pour la liberté n'a droit aujourd'hui qu'à un peu de plomb. J'en réclame ma part, moi.
Nous voici arrivés au terme de notre émission et nous tenons à remercier nos auditeurs ainsi qu'au guide Frison et Fréquence Mistral pour cette invitation qui nous a permis d'aborder ce sujet délicat. Nous souhaitons à tous les auditeurs et auditrices une excellente journée. Vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission en mars 2026. Écoutons pour terminer une chanson de Christian Pacou, Blanche Anarchie.
Ils ont la plume ancrée dans l'histoire et des mains sur le front des enfants. Des chansons de Ferré pour y croire, les fanons pour arrêter le temps. Oh papa, le soleil est à boire, qu'on le boive tant qu'il est encore temps. Dans le ciel il pleut des drapeaux noirs, c'est pour ça qu'on voit chanter le vent. Et du lever des couleurs au coucher de la vie, écoutez les tailleurs de la nuit. Blanche Anarchie, ma blanche des communs, dimanche toute la semaine on t'attend.
Toute la semaine on t'attend.
Anarchie, ma belle des communs, Noël toute l'année on t'attend.
Toute l'année on t'attend.
Anarchie, ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend.
Toute la vie on t'attend.
Anarchie, ma noire des plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noire. Tout noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie. Non, monsieur, les petites gueules de France en ont rien à foutre d'être français. Parce que dans la cour de leur enfance, on allait de l'Afrique au Tibet. Oh papa, regarde-là ta France, elles font dans la bouche et dans la main, comme le beau bateau de ton enfance a coulé sous l'or et le satin. Et du lever des couleurs au coucher de la vie, écoutez les tailleurs de la nuit. Blanche Anarchie, ma blanche des communs, dimanche toute la semaine on t'attend.
Toute la semaine on t'attend.
Anarchie, ma belle des communs, Noël toute l'année on t'attend.
Toute l'année on t'attend.
Anarchie, ma vieille, t'es comme le soleil, toute la vie on t'attend.
Toute la vie on t'attend.
Anarchie, la noire des plus qu'un espoir, mais t'es quand même bien noire. Noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la noire. Tout noir comme des petits flocons de suie, que si tu les essuies, c'est quand même tout gris. Noir, tout noir, le petit flocon suit. Sur Radio Liberty, c'est le flot de la vie.